retrouver. Bonjour à toutes et à tous. Nous voilà donc après, forcément ces vacances d'été, mais ces journées d'été, qui sont parfois plus remplies que les journées par ailleurs. Ces bons vacances sont un petit peu inappropriées. Et j'espère que vous avez passé un bon été. Et que pour la nouvelle année, vous avez bien les en forme pour pouvoir travailler sur le thème donc de l'altérité. En ce qui me concerne, nous sommes très heureux de vous retrouver. Cet après-midi, nous pensons faire en deux temps. Un premier pour informer ceux qui sont nouveaux de notre manière de faire, pour rappeler éventuellement, si c'était besoin, à ceux qui nous suivent déjà depuis plusieurs années, eh bien, comment nous pensons fonctionner, Didier et moi, au niveau de cette pratique de la philosophie générale. Dans cette chose, nous devons dire que notre façon de procéder n'est pas la seule possible et que certains collègues et philosophes ne seraient pas d'accord avec notre manière de procéder. Mais on ne se refait pas et donc en ce qui concerne notre manière, nous, de faire de la philosophie, le premier texte que nous vous avons remis là, eh bien, illustre bien ce que nous pensons que nous pouvons faire avec vous. Et c'est un texte qui est tiré du Monde de Roger Paul Droit. Vous connaissez Roger Paul Droit, c'est un journaliste du Monde et dont les commentaires souvent sont extrêmement intéressants quand il présente un auteur ou quand il présente un ouvrage. Et là, en l'occurrence, il parlait de Canguilhem. Alors, Canguilhem, vous connaissez peut-être moins. Canguilhem est un médecin, philosophe, du début du siècle dernier. Il est né en 1904. Et ce Canguilhem, eh bien, a dû se battre beaucoup. En tant que médecin et en tant que philosophe, contre la représentation qui était à l'époque dominante au niveau de la biologie, au niveau de la vie, et que la vie se réduisait finalement à des phénomènes physico-chimiques. Ceux qui étaient là l'an dernier se souviennent peut-être de ce concept d'émergence dont on a parlé et donc qui n'est pas toujours très facile à comprendre, et que qu'il y ait dans un processus du physico-chimique ne veut pas dire que le biologique se réduit à du physico-chimique, parce que la présence de ce physico-chimique permet l'émergence d'une propriété nouvelle irréductible à chacun de ses composants. Rappelez-vous, nous prenons comme exemple le bouchon sur le périphérique sud le vendredi soir. Et que je peux utiliser tous les éléments qui rentrent en jeu là-dedans, ma voiture, la vie sociale, les bouquets et tout ça. Aucun de ces éléments ne permet d'expliquer le bouchon. Et tous réunis, de la réunion de tout cela, émerge une réalité irréductible à chacune ou à chacun des composants qui rentrent dans son existence. Et voilà. Et à l'époque, le Canguilhem, eh bien, Canguilhem a dû se battre beaucoup pour défendre l'idée, contraire à celle qui était dominante à l'époque, que la vie en tant que telle n'était pas réductible à du physico-chimique, même si, en analysant la vie, je ne trouvais que du physico-chimique. Mais de cette réunion émergeait une réalité nouvelle, eh bien, qu'on appelait la vie, et qui avait des propriétés particulières, des propriétés nouvelles, et que, eh bien, cela méritait une étude très spécifique sur le phénomène du vivant. D'où René-Paul Droit utilise en quelque sorte cette pratique de Coghlan pour en tirer des leçons au niveau de la philosophie, et la manière dont il le tire, eh bien, nous a paru à Didier et à moi tout à fait proche de celle que nous pensons pratiquer. C'est-à-dire que certains collègues pensent que la philosophie apporte une connaissance, qu'il y a des objets philosophiques particuliers, qu'aucune des sciences diverses, en tant que telles, ne prend en compte. Alors, ben pour en citer quelques-uns, ça va être Dieu, existe-t-il ou n'existe-t-il pas, ça va être l'âme, l'esprit, le sens de la vie, toutes choses comme ça que l'on considère comme des questions fondamentales, qui, j'aime bien lire les deux, n'empêchent personne de dormir, d'ailleurs. Mais c'est les questions que l'on dit fondamentales, c'est-à-dire sur lesquelles, dans les réunions privées, quand vous prenez l'apéritif avec votre voisin, eh bien, si ça tombe là-dessus, il faut paraître intéressé. Mais oui, c'est un problème important. Et vous en pensez quoi? Ça, c'est plus compliqué. Alors voilà. Alors, ce type de conception qu'on appelle la métaphysique n'est pas notre propos. Pour Didier et pour moi, en l'occurrence, là-dessus nous sommes en gros d'accord, il n'y a pas d'objet philosophique particulier. Tout peut être envisagé philosophiquement. C'est-à-dire que, si l'on voulait définir la philosophie, c'est une remarque d'un philosophe contemporain, Comte Sponville, que vous connaissez peut-être, dont le nom vous dit quelque chose. Eh bien, la philosophie n'apporte aucun savoir, mais elle est une réflexion sur les connaissances disponibles. En tant que telle, la philosophie ne produit pas de connaissances. Elle ne produit pas de connaissances. À la limite, nous ne vous apprendrons rien que vous ne pourriez déjà, par ailleurs, apprendre de tel ou tel discours qui, eux, pensent apporter des connaissances, et qui parfois en apportent, mais qui parfois n'en apportent pas. Et c'est là que la philosophie intervient, une réflexion sur les connaissances disponibles. Notre propos, si nous avons un objet propre, c'est la totalité des discours que l'homme produit sur lui-même, sur son environnement, sur ce qui l'entoure, sur la façon dont il conçoit le monde. Donc par rapport à cela, eh bien, nous essayons de faire ce que j'appelle, moi, le réflexe philosophique. Le réflexe philosophique qui consiste par rapport à tout discours, par rapport à tout écrit. Et quand je dis par rapport à tout discours, y compris les miens, y compris celui que vous êtes en train d'écouter, prendre du recul. Que me dit-on exactement? De quoi parle-t-on? ce que l'on me dit a-t-il un sens? À quelles conditions ce sens peut-il être énoncé? Quelles sont les conditions nécessaires pour que ce que je dise ait un sens? Beaucoup de propos n'ont pas de sens et ne sont pas émis pour signifier quelque chose. Je peux parler simplement pour remplir le vide. À la limite, peu importe ce que je dis, ce n'est pas le problème. Le problème n'est pas ce que je dis. Le problème est que ce soit moi qui parle. C'est moi qui parle, c'est moi qui ai le droit de parler. Vous avez le droit éventuellement de m'écouter, de vous endormir en m'écoutant, mais vous n'avez pas le droit de parler. Vous n'avez aucun titre pour parler. Vous n'êtes pas diplômé, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela. Donc à quel titre allez-vous dire quelque chose à quelqu'un? Bien. Donc quelles sont les conditions pour que ce que je dise ait un sens? Ce sens, à supposer qu'il existe, comment puis-je, moi, l'intégrer à la façon dont je me représente le monde? Est-ce que c'est intégrable? Est-ce que ça n'est pas intégrable? Est-ce que ça me remet en cause? Ça remet en cause les conceptions que j'ai? Ou est-ce qu'au contraire, ça les conforte? Bien, toute chose que, avant de donner mon assentiment, eh bien, il me faut interroger. Et se rappeler que, bien souvent, je préfère une réponse, quitte à ce qu'elle soit erronée, à une question que je me pose, plutôt que de rester avec une question sans réponse. Car il n'est pas digne que toutes les questions que je me pose aient des réponses. D'une part, toutes les questions que je me pose peuvent ne pas avoir de réponse actuellement, mais être telles que je peux penser que l'évolution du travail des scientifiques divers ou de l'homme tout court, un jour, pourra répondre à la question qui m'interroge. Mais il y a des questions sans réponse possible. Non seulement sans réponse possible aujourd'hui, mais sans réponse possible tout court, parce que la question en elle-même n'a pas de sens. Ou elle a un sens à des conditions que je ne rencontrerai jamais, et qui me renvoie, dans ce cas-là, à une problématique conceptuelle où je me réfère à autre chose qu'à ce qui m'est donné dans mon existence quotidienne. Je parle du sens de la vie. Que voulez-vous répondre à ça? Y a-t-il un sens de la vie? Là-dessus, je peux avoir mon opinion, qui ne vaut pas plus que la vôtre, et sur lequel je n'ai aucun titre de dire que mon opinion est l'opinion qu'il faut avoir. Je n'en sais rien. Comment y répondre? Je peux éventuellement vous parler du sens que moi, je donne à mon existence. Mais c'est tout à fait autre chose. Autre question plus complexe. Qu'y avait-il avant le Big Bang? Voilà une question intéressante pour certains. Qu'y avait-il avant le Big Bang? Je ne connais aucun scientifique qui accepterait de répondre à la question. Tout simplement parce que l'énoncé même de la question suppose déjà que le Big Bang existe. Donc on est en train de tourner en rond. On est en train de tourner en rond et de supposer résolu ce qu'il y a précisément à résoudre, à savoir d'où vient que je puisse me poser la question. Alors, voilà, il faut savoir distinguer les questions qui ne sont importantes que parce que il faut que vous puissiez en parler quand votre voisin vous invite à l'apéritif, pour qu'il puisse continuer à vous inviter à l'apéritif le lendemain. Et que si vous ne savez pas quoi répondre, on va dire, mais celui-là, mais je croyais qu'il était intelligent, mais finalement il n'est pas cultivé du tout. Non, mais je suis important avec lui. Donc, je ne réaliserai pas. Et puis, si parfois vous dites à votre interlocuteur que sa question n'a pas de sens, ça avance. Il y a réglé l'autisme. Donc, quand on lit un peu ce texte de Roger Paul Droit, rapidement, si vous voulez, là vous le relayez vous-même, on comprend. Alors oui, comme le souligne son dilemme, ce n'est pas la vérité qui est désagréable. C'est la perte de l'illusion correspondante. Voilà. Jusqu'à présent, je pensais ça. Ça me confortait dans mon homéostasie intellectuelle. C'est-à-dire que mon thermonieux. Et puis voilà que je ne sais pas qui là est en train de me faire abuser pour me dire que peut-être que ce que je pensais, on peut penser différemment, et puis que peut-être que ce que je pensais ne tient pas la route. Bon. Donc, à la limite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je préfère rester avec mon illusion plutôt que de perdre cette illusion et ne rien avoir à me mettre sous la dent pour la remplacer. Je me trouve en quelque sorte en déséquilibre. Ce qui est le plus dur, c'est de ne pas savoir quoi répondre aux questions que réellement on se pose. Parce que les questions fondamentales, personne ne s'intéresse finalement. Ça n'empêche personne de dormir. Par contre, les questions qui vous empêchent de dormir, qui vous arrosent la nuit, à laquelle vous voudriez bien avoir une réponse, parce que vos enfants ont ceci, parce que vos voisins ont cela, parce que les gens que vous connaissez ont ceci, vous posent problème, et vous ne savez pas quoi répondre. Et cela vous ennuie. Et vous trouvez des réponses. Vous en avancez à la limite pour pouvoir continuer à vivre et à discuter et à parler avec vos voisins. Car ce qui est le plus difficile, eh bien, c'est effectivement de ne pas être d'accord avec ses voisins. Et que certains philosophes ont dit que le meilleur garant de la moralité, mais en même temps le meilleur garant de l'uniformité de pensée, c'est l'opinion de ses voisins. L'opinion de ses voisins, il est difficile de braver l'opinion de ses voisins, ou d'une manière générale de braver l'opinion de ceux qu'on aime. Alors vous dites, mon voisin, je n'aime pas. D'accord, notre affaire. Mais être en désaccord avec les personnes pour lesquelles on a de l'affection, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et le côté affectif est souvent le support d'une manipulation quelconque. Et c'est dans l'éducation aussi. Fais ça, sinon tu ne t'aimes plus. Donc, ou je te bats, ou je t'aime plus. Ou c'est la carotte,
c'est pas bon.
Bien. Donc, c'est ton initiation, interdit. Ou alors, ben, tu fais de la peine à ta maman. Et alors, pourquoi vous auriez-vous qu'un enfant qui grandit ne fasse pas peine aux adultes? C'est impossible. Donc il faut accepter cette situation. Mais bon, donc, en quelque sorte, on culpabilise l'enfant. Donc voilà, ce n'est pas la vérité qui est désagréable, c'est la perte de l'illusion. Et on comprend, en suivant cet homme, c'est Roger Paul Droit qui parle de Canguilhem, dans le détail de son parcours, que la philosophie n'a pas rénové le message, mais elle a dissipé les brumes. Et voilà ça. Nous n'avons pas à vous transmettre des connaissances, mais on a à vous apprendre à les envisager et éventuellement à les critiquer. Elle n'est pas un département des affaires culturelles, oui, mais elle est une attitude d'esprit. Et c'est pourquoi elle est utile à l'éducation des citoyens, elle peut leur éviter d'être manipulée par les propagandes, endoctrinée par les sectarismes, bref, et la formule me paraît jolie, la philosophie ne forme pas des spécialistes, ni des experts de quoi que ce soit, mais des hommes libres. Et ça n'est pas la même chose. D'où, voilà, si vous voulez, en quelque sorte, rapidement, notre manière, nous, de procéder. Nous ne cherchons pas à vous enseigner quoi que ce soit. Sinon, cette pratique que j'appelle, moi, le réflexe philosophique et dont je viens de vous parler. Donc, voilà. Je pense que ceux qui nous suivent depuis quelques années reconnaîtront notre manière de procéder. Et j'espère que ceux qui sont nouveaux, eh bien, peut-être seront-ils un peu surpris au point de départ par cette façon de procéder, mais qu'ils seront eux aussi à l'apprécier. Ceci dit, maintenant, s'il y a des questions à poser. Sur cette partie. Alors la deuxième partie, par contre, la deuxième partie, c'est Didier qui va en parler. Bon, on va être plus directement orienté sur le thème de cette année, qui est choisi l'année dernière, sur l'altérité. Alors, l'altérité, je ne sais pas pourquoi, mais on a le chic. On a le chic, on l'avait l'année dernière sur le travail, alors sur le travail l'an dernier, on était envahi par tout ce que vous voulez sur le travail, les conférences, les débats, les études, les journaux, les films. Là, sur l'altérité, je vous promets que vous aurez de quoi manger. Pas uniquement parce qu'on dit, mais il y a déjà des tas de choses. Le Festival d'Avignon, je crois, avait pris l'altérité comme thème. Bon, donc, vous aurez des conférences, vous aurez des débats, vous aurez des films, vous aurez tout ce que vous voudrez sur l'altérité au cours de l'année qui vient. C'est déjà parti. Alors, en plus, l'actualité avec les phénomènes de migration. On a le chic. Une sorte de flair en quelque sorte qui vient, une immersion dans la réalité. Voilà. Donc, eh bien, ce sera l'occasion, précisément. Donc, nous, on essaiera, modestement, mais audacieusement, en suivant le programme qui vous est indiqué là, et que Julien va commenter tout à l'heure, à partir du deuxième texte, eh bien, de voir. Non pas ce qu'il faut penser, mais comment on peut interroger tous les discours que l'on aura pu entendre et que nous disent-ils, à qui s'adressent-ils, d'où vient que ce qu'ils disent ait un sens. et donc essayer de mettre en place cette pratique philosophique, ce réflexe philosophique. Ça, par contre, si à la fin de l'année vous l'avez acquis, eh bien, j'estime que nous n'aurons pas perdu notre temps. Je redis, peut-être un jour, en attendant que la porte s'ouvre, j'étais sur la terrasse, là, et il y a une femme qui me dit, monsieur Fourneau, il faut que je vous dise, depuis que je suis au cours, je ne lis plus le journal de la même manière. Je lui dis, mais madame, je ne sais pas dans quel état d'esprit vous me dites ça, et vous me faites un très grand compliment. Mais il est en état. Alors, je lui dis, c'est parfait. C'est parfait. Voilà. Donc, si à la fin de l'année, vous n'écoutez plus la télévision, de la même manière que vous l'écoutiez avant, je ne vous dis pas de descendre votre poste. Mais si vous ne l'écoutez pas de la même manière que vous l'écoutiez auparavant, si vous ne lisez plus votre journal de la même façon que vous le lisiez avant, eh bien, nous aurons fait notre travail en ce qui nous concerne. Voilà. Est-ce que tout cela vous paraît clair?
Il n'y a pas Mustapha aujourd'hui. Il n'est pas là pour le.
C'est une opportunité.
Je vais faire mon Mustapha en quelque sorte. Je ne sais pas si vous coupez la main et je serai le micro. C'est vraiment Mustapha qui va être en sortie. C'est un je disais celui qui est là, alors oui, il est de gauche. Peut-être pas. Il y a quelqu'un dans l'ordre qui est là pour distribuer la parole avec le micro. Et donc la personne n'étant pas là parce qu'elle en voyage en ce moment, donc il va remplacer. Donc n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Et on peut revenir évidemment sur cette. Je pense surtout aux nouveaux, ceux qui arrivent et qui attendent peut-être autre chose que la philosophie. Donc peut-être pas bien compris, je vais vous dire Bernard par rapport à la philosophie. Donc n'hésitez pas à ce moment, même si on reviendra sans doute dans trop d'années, pour faire une question. Donc voilà, on pensait peut-être débattre un peu de cette question-là avant de parler du fait de la vie. Donc, il y a des questions, des remarques d'ailleurs, des revendications.
Merci, Yves de Marais. Oui, il a été dit, on est sous pas sans désaccord envers quelqu'un qu'on aime. Bon. On n'exprime pas son désaccord envers quelqu'un qu'on aime. Moi, je pense au contraire. Et je pense qu'au contraire, quelqu'un qu'on aime, on est capable d'exprimer son désaccord et c'est même un signe d'amitié, d'intérêt pour l'autre. Mais pas faire la confusion entre ce que je dis et la personne.
Alors, ça fait peut-être pas une réponse tout de suite de Bernard. C'est pas la même question.
Oui, normalement. Mais normalement, effectivement, aimer quelqu'un, on peut considérer que ce que. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que beaucoup de couples. Actuellement, les couples durent peu de temps. Ils durent peu de temps, précisément, parce que lorsqu'il y a un désaccord, eh bien, on se sépare. Donc, si on se sépare, c'est qu'en fait, on ne supporte pas le désaccord. Donc, moi, je me suis disputé très longtemps et très souvent avec mon épouse. Ça fait. On ne sait rien, on ne se souvient même plus. Ça doit faire 50 ans, oui, on s'en rend plus. Donc, j'ai des enfants qui ont 35 ans. Donc, vous pouvez bien vous imaginer que tout ne s'est pas passé dans le calme. Et que des accès, je dirais même presque de violence, ont permis couple de durer. Il n'a pas duré malgré, il a duré grâce à cela. Et que ben, nous avons évité ce qui arrive malheureusement très souvent, que les couples ne se parlent pas. Les couples n'évoquent pas entre eux leurs contradictions. Et puis un jour, il y en a un qui est parti. Il y en a un qui est parti. Parce que quelque part, ben, il ne supportait plus une telle situation. Donc il faut accepter la contradiction. Il faut exprimer la contradiction. Si vous ne l'exprimez pas, mais effectivement, pour cela, il faut accepter, il faut pouvoir vivre caractériellement le fait d'être en désaccord avec la personne avec laquelle vous êtes en train de vivre quotidiennement. Et que pour vivre ce que vous, vous voulez vivre, mais vous n'avez peut-être pas besoin de l'assentiment, de l'accord, de l'autorisation de la personne avec laquelle, effectivement, vous avez un rapport affectif qui peut être extrêmement fort. Et je pense que c'est ce qui est le plus difficile dans la quotidienneté, c'est d'assumer la contradiction avec quelqu'un que l'on aime. On va retrouver ça d'ailleurs au niveau de l'altérité. On va retrouver ça au niveau de l'altérité. C'est que supporter quelqu'un qui vous est indifférent, pas ça, c'est la pensée du premier imbécile venu. Mais vivre avec quelqu'un qui vous est cher, qui ne pense pas comme vous, qui n'a pas les mêmes préoccupations que vous. Il en a d'autres. Il faut bien que vous soyez d'accord sur un certain nombre de points. Mais être d'accord sur un certain nombre de points ne veut pas dire que vous êtes d'accord sur tout. Et que vos existences se confondent. Donc, on va retrouver cela, et on le retrouve à niveau, c'est qu'à la fois, il faut que l'on puisse vivre ensemble. Mais en étant, en pouvant vivre ensemble, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on devienne semblable et qu'on devienne identique. Donc c'est cette confusion, cette difficulté, parce que c'est effectivement deux mouvements contradictoires. Vivre ensemble, vous avez tendance à devenir comme l'autre. Or, il faut maintenir votre spécificité. Il faut maintenir votre singularité, un mot que Moustapha qui n'est pas là, il pourrait bien. Bien. Il faut rester vous-même. Et vous-même, vous n'êtes pas l'autre. Et qu'en étant vous-même, ça ne vous empêche pas de collaborer avec l'autre. Mais si vous ne collaborez qu'avec ceux qui pensent comme vous, votre univers devient réduit en peau de chagrin. Donc, voilà, c'est cette. C'est cela, si tu veux. Et c'est en cela que bien souvent, la pression affective, en quelque sorte, de notre environnement, eh bien, nous amène à une espèce de consensus qu'on ne reconnaît pas comme tel, mais où en fait on y perd son authenticité. Et ça ne dure pas forcément longtemps. Ça ne dure pas forcément longtemps parce que nous sommes quand même avant tout des animaux et que notre instinct de survie nous fait au bout d'un moment pressentir qu'on est en train de crever. Et qu'il faut sortir, faut respirer, faut prendre de l'air, prenez de l'air, Et prendre de l'air ne veut pas dire mépriser son voisin. Mais j'en prends de l'air par rapport à lui. Voilà, en quelque sorte.
Oui, pour continuer dans ce sens, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait quand même dans les couples ou dans les personnes en général, qui soient quand même un minimum accessible à certains discours ou à certains degré de communication autre, non verbal, il faut qu'ils aient quand même une certaine évolution dans un cheminement intérieur pour que ce que tu dis puisse s'appliquer. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, et justement parce qu'ils se séparent, parce qu'ils sont peut-être un des deux ou les deux ne sont pas à un niveau, si tu veux, dans un cheminement intérieur, et que. Et ça commence, quoi. Il y a quelque chose qui joue pas. Il y a un seuil au-delà duquel il peut s'appliquer. Mais avant,
il faut que je vous dise, je n'ai rien compris. Vous avez compris non pas parce que je n'ai pas compris ce que je dis, mais que je n'ai pas entendu. J'ai des problèmes, je comprends très mal. Et dans beaucoup de cas, je suis obligé de demander à Didier, en l'occurrence, il va répondre, il va redire la question. Donc, n'hésitez pas, prenez la parole, à parler lentement et le plus fort possible. Parce que, malgré les appareils, je peux avoir, j'entends très mal.
Et en même temps, souvent, vous verrez pendant les cours, il y a des idées quand même qui ont du mal à entendre plus que d'autres. Là, t'as entendu. Par rapport à ce que vous dites, alors je vais essayer de retomber, parce que moi, c'est l'inverse de Bernard. Lui, il n'a pas entendu les sons, mais donc il ne peut pas dire s'il a compris. Moi, j'ai entendu les sons, mais je ne suis pas sûr d'avoir compris l'idée, par contre. Je que Bernard puisse intervenir éventuellement. Bien que, l'histoire de couple, c'est intéressant, mais on ne va pas passer la séance, on peut arriver à des problèmes de couple, vous êtes nombreux. moi, ce que j'ai compris, c'est que tu restais sur l'idée du couple, quoi. Alors que quand on a appris ça, pas faire de vivre, c'est très bien dit, mais pas faire de vivre qu'il s'agit de parler de la philosophie, hein, pas des couples. Le couple ici, c'est une image, une métaphore. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Et parce que je suis sûr qu'effectivement, les affects que l'on a les uns par rapport aux autres, le couple est un bon exemple, peut-être de rendre la démarche qu'on appelle, nous, la philosophie, ici en philosophie générale, de la rendre difficile. C'est ça, en fait, c'est un exemple, en fait. C'est une métaphore que, évidemment, les couples, je ne crois pas que leur but, c'est de faire de la philosophie, une autre situation. Mais par rapport à, alors, si je reprends mon idée, pour Bernard, je vais l'aider aussi, puis intervient éventuellement là-dessus, si j'ai bien compris, c'est que ce que tu dis, c'est que c'est pas seulement le fait qu'on puisse s'entendre ou pas, c'est aussi qu'il y a une sorte de cheminement intérieur de part et d'autre, à l'intérieur du couple, chacun a son cheminement. Et on peut aussi, l'un ne peut pas être forcément prêt par rapport à l'autre. Alors, si tu peux expliquer, c'est ça que tu avais dit.
Je me demande s'il y a un seuil ou si simplement s'il y a un décalage, même s'il y a un décalage. Bon, ça, c'est pas un défendeur. Hein. Attention, c'est vraiment un décalage de cheminement de l'autre. Parce qu'à un moment donné, il y a un effet de seuil au-delà duquel on peut être. Ah, ça peut se poser la question, comprendre le peut-être. Mais il y a des gens qui voient bien.
Tu attends qu'il soit prêt, d'accord. Voilà, je ne sais pas si tu as compris.
Le peu que j'ai compris, que j'ai entendu, c'est dire que je continue à penser que ce qui est capital, ce n'est pas les contradictions. Les contradictions sont nécessaires et elles sont profitables à une condition, de pouvoir les exprimer. Et que pour pouvoir exprimer les contradictions, effectivement, ça suppose un accord, je dirais, plus sous-jacent. Et donc, une forme d'unité plus sous-jacente. Mais ce qui est pire que les contradictions, c'est de ne pas en parler. C'est de ne pas les poser. C'est rarement les contradictions, à mon sens, qui remettent en cause la survie d'un couple ou la survie d'un rapport entre deux personnes. Mais le fait que ces contradictions ne sont jamais mises sur la table. Et alors là, on se fait du charbon de bois, quelque sorte. On se fait, au lieu de faire des braises, on se fait du charbon de bois. Et puis un jour, ben, ça n'est pas supportable. Un jour, ça n'est pas supportable. Parce que le charbon de bois, ça provoque de la fumée, mais ça ne provoque pas de la chaleur. Donc c'est un peu ça.
C'est des bons barbecues.
Hein? C'est des bons barbecues. Mais il faut devenir des braises. Oui. Madame là-bas.
Bien, écoutez-moi, je vais être brève pour finir avec la question du coup. Je vais avoir un peu une idée un peu lapidaire. Je pense que de la fusion, souvent naît la confusion. Et c'est là où chacun s'est perdu dans l'autre, a rêvé l'autre, et en fait, c'est comme ça que. Tout le monde se plante. Voilà, c'est un peu rapide, mais c'est une manière un peu de faire la synthèse.
Oui, mais votre expression de la fusion et de la confusion, elle est jolie et elle va bien.
Ouais. Bon, en même temps, qui savent qu'on n'a pas vécu comme ça non plus. Non, c'est le discours souvent que l'on tient, il n'y a pas vraiment un grand amour non plus. L'amour dont nous parlent les poètes, j'ai l'impression que ça ressemble plus à la fusion. C'est peut-être confus, je comprends bien le point de vue, mais c'est quand même très fusionnel. Et il y a une phrase qui me revient, alors je crois que c'est pas marché, je ne suis pas sûr. C'est-à-dire que très souvent, on écoute peut-être, et là on est parti pour faire un petit peu la thérapie, tout le monde. On écoute souvent, c'est je t'aime parce que les disputes, c'est je t'aime, voilà, j'ai besoin de ça, quoi. En fait, voilà, c'est beau marché, ça. C'est plutôt j'ai besoin de toi parce que je t'aime, pas je t'aime parce que j'ai besoin de toi. Souvent, il y a une sorte du coup, oui, cette fusion, bah, ça dépend de ton pas. C'est peut-être pas la fusion des idées. C'est-à-dire qu'on peut avoir une fusion avec lui. Et moi je remarque que les couples, parce que les soirées avec les couples qui se discutent bien, qui se bien d'ailleurs ces soirées-là, en général, c'est très violent. Et en même temps, c'est des couples très fusionnels, sur le plan, contrairement à ce que vous dites, qui ont cette capacité parce que justement, et là je reviens sur la philosophie pour le coup, et je reformule à ma façon ce que essayer de dire la personne très bien qu'il y a, très bien qu'il y en a, c'est-à-dire le fait que à l'origine, parce que la philosophie générale, telle que nous on l'a pratique, on ne l'a pas inventé, c'est pas quelque chose, c'est pas quelqu'un on va inventer d'une manière parce qu'elle fait partie de l'histoire de la philosophie, c'est un courant qui date de quelques siècles avant Jésus-Christ, certains l'appellent la maïotique. Au tout début, la dispute au Moyen-Âge, aujourd'hui on est tous dans des courants un peu en soupçon, peu importe les termes qu'on emploie pour désigner ce courant-là, c'est un courant en fait, une pratique, un courant qui renvoie à une pratique de la philosophie, justement c'est un pari. Pour ça, l'histoire du couple est intéressante. Quand vous vous mettez avec quelqu'un, bah vous faites une sorte de pari, vous ne savez pas trop ce qui va marcher, les sentiments, tout ce que vous faites, vous ne savez pas comment ça va durer, vous ne savez pas ce qui va se passer, vous ne savez pas les conflits que vous allez avoir, et on s'est un peu attendu au tournant, c'est-à-dire bah, qu'est-ce qui va se passer dans les moments difficiles, c'est dans les moments difficiles, donc ça va apparaître vraiment. Bah, les deux vies, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que, alors le pari, c'est quoi? C'est justement le fait qu'on puisse discuter avec quelqu'un sans délai, chercher à savoir quelque chose, sans que forcément, et c'est un pari difficile, et c'est pas évident, ça se rapporte à l'individu. Même si dans la vie de tous les jours, on a du mal à détacher nos idées, nos évidences de notre vie. Alors si complique tout, c'est le petit Bernard, si complique tout, c'est qu'en plus, c'est pas faux. C'est-à-dire que les idées auxquelles, auxquelles on tient le plus, sont souvent les idées par lesquelles on vit, justement. Donc évidemment, toute remise en cause de cette idée va être ressentie comme un rapport de force. Est-ce qu'on peut avoir des rapports d'idées, même violents, sans que ce soit un rapport de force? C'est ça le pari de la philosophie. Et là, je reviens encore une fois, je vais peut-être reformuler, mais alors d'une manière, je pense là à ce qui arrive, hein, par rapport au contenu du cours, quoi. Parce que je vais présenter évidemment sur la pureté, il y a une hypocrisie, on va voir que. C'est très paradoxal, parce qu'on dit, je me mets à la place des gens qui arrivent, parce que la philosophie. Parce que d'un côté, on dit, ben, on n'est pas là pour vous enseigner des choses, pour vous apprendre des choses. En même temps, vous regardez vos faits, les biographies, les auteurs, et donc je me mets à votre place, j'ai l'impression quand même qu'on va vous apprendre des choses au moins sur des auteurs, les Vinas, les Bistrous, vous avez lu un peu la biographie. Bon, ça va, quoi. Ça fait quand on voit ces auteurs, on a envie de se taire, d'attendre un peu. Donc il y a un peu un côté comme ça qui peut paraître paradoxal, donc je pense qu'il faut être clair là-dessus. Une distinction qui peut vous aider, c'est qu'en fait, il y a deux façons d'enseigner la philosophie. La façon dont on fait là, on la trouve aussi à l'université, et pas forcément propre à nous. D'ailleurs, on est un cadre universitaire, même si c'est populaire, etc. Mais il y a une autre façon d'enseigner la philosophie, qui existe d'ailleurs au cabinet de l'IAD, que j'ai vu, où on confond philosophie et histoire de la philosophie. Et on retrouve ça. C'est-à-dire, on fait de l'histoire de la philosophie. On a plus prendre l'altérité, par exemple, si on faisait l'histoire de la philosophie, voilà ce qu'on aurait fait. On a un cours altérité de Platon jusqu'à Lévinas. On aurait choisi un truc, Michel Onfray, peu importe. Voilà, Platon aujourd'hui, qu'est-ce que les philosophes ont dit sur la vérité? Et on aurait fait donc une présentation des différentes doctrines, etc. Oui, c'est que là, du coup, on évite toute la discussion. C'est commode. Je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ça à la cour de philosophie. Une sorte d'érudition par rapport à l'histoire de la philosophie. C'est ça que nous, on ne peut pas vous donner. Si vous êtes dans cette position-là, vous allez être très déçu par ce cours. Si vous n'êtes pas déçu par ce cours, ce sera pour d'autres raisons que celle-ci. Vous allez découvrir peut-être autre chose après. Mais il ne faut pas vous attendre un cours d'histoire de la philosophie. On se refuse d'être des historiens de la philosophie. Alors, bien, ben, pourquoi vous avez des auteurs alors là, je reviens sur ce que dit Bernard. C'est qu'en fait, si la philosophie, pour nous, faire de la philosophie, on ne la confond pas avec l'histoire de la philosophie, c'est parce que ce n'est pas, comme l'a très bien dit Bernard, là je rejoins à 100%, c'est. La philosophie n'a pas un objet propre comme la physique. La physique, elle étudie le mouvement des phénomènes naturels, des LMG, voilà. La chimie étudie évidemment des outils de cette matière. Elle a un objet. La neuroscience, bien le fonctionnement du cerveau, du neurone, elle a un objet, c'est une science, c'est un savoir. La métaphysique, il ne faut pas passer trop vite là-dessus, parce que dans notre cours, la métaphysique, bien sûr, on va en parler. Mais parce que la métaphysique est un domaine dit de la philosophie qui prétend avoir un objet. Vous voyez? Mais nous, on n'est pas métaphysiciens. En tous les cas, on ne fait pas. On parle de la métaphysique, mais on ne parle pas plus de la métaphysique. On va parler de la physique, de la biologie. Ici, dans ce cas-là, de la sociologie, la psychologie, l'ethnologie. Tous ces domaines d'experts où on prétend avoir des savoirs. Parfois, même, on verra des discours plus ou moins religieux qui prétendent être des discours théoriques. Donc, il prétend être un savoir très loin à l'avoir. Donc, on est plus là pour, non pas pour proposer un savoir particulier, que pour déconstruire en quelque sorte, les savoirs qui existent, non pas d'ailleurs par méchanceté, parce que pour détruire, quoi. Là, non, c'est pas ça le problème. C'est plutôt pour, en questionnant ces savoirs, ben, le peu de choses qui restent à la fin de questionnement, peut-être on saura vraiment beaucoup. Ce que, comme dit d'ailleurs très bien Paul Roy à la fin du passage, ne pas se laisser avoir par la propagande, par les discours, ne voulez pas les présupposer. Ce qu'on cherche, c'est celui qui tient ce discours, que ce soit un métaphysicien, un sociologue, un psychologue, un physicien, peu importe son domaine, celui qui tient ce discours, d'où il part pour tenir ce discours. De quel pays il part cette idée? Est-ce qu'elle est valable? Pas valable? Est-ce qu'elle est fondée? C'est ça, faire de la philosophie ici. Autrement dit, j'ai envie de dire, l'objet de ce cours, ce n'est pas un savoir en particulier, c'est tous les savoirs. Et on a comme objet tous les savoirs, et sur la vérité, il y a énormément de discours psychologiques, sociologiques, économiques, même parfois anthropologiques, évidemment, ethnologiques. On verra même que certains discours scientifiques utilisent ce concept, ça pourrait être intéressant d'aller voir ce qu'ils veulent dire par ce concept. Donc, il y a un moment de discours qui utilise ce concept d'appel politique, évidemment. Alors, j'ai quand même des gens qui sont pleins que le coup était trop politique. Alors, le problème, c'est que oui, mais les politiques, dont on voit l'actualité sur le problème des réfugiés, l'utilisent aussi. Donc, il y a un moment, il faut bien interrompre leur discours aussi. Qu'est-ce qu'ils disent eux-mêmes sur ces, à partir de cette question d'appel? Donc, voilà, c'est ça plutôt notre travail. Donc, du coup, bah oui, il va y avoir des auteurs, oui, il va y avoir des références. Mais ce n'est pas une vision historique de ces références, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que ces auteurs, je veux dire, c'est des outils. C'est simplement la différence entre vous, moi et eux, nous, je mets dedans, nous, et Bernard, je mets dedans, c'est que là, on a affaire à des auteurs qui, apparemment, ont passé beaucoup de temps, je prends les Strauss, comme c'est quand même 50 ans, à étudier ces phénomènes-là, beaucoup de temps. Donc on peut imaginer qu'en 50 ans, ça nous permet d'aller un peu plus vite sur certaines choses. Par contre, ça ne tient rien sur son discours. C'est-à-dire que son discours, est-ce qu'il tient, est-ce qu'il ne tient pas, ça reste à voir. Il faudra peut-être le mettre en opposition avec d'autres, etc. C'est ça, en fait. C'est pour ça que je voulais reformuler un peu tout ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un cours d'histoire de la philosophie, c'est clair. C'est pour ça qu'on a appelé ça philosophie générale. Il existe, il y a un cours sur la philosophie, il existe. Et il est très bien fait par un spécialiste, un historien, un philosophe, très bien. Très bien fait, donc en plus, ce serait contre. Un peu partie de son cours, c'est anormal, on n'a pas à prendre le travail des autres, hein, je vous renvoie la notion de travail hier, l'année dernière, évidemment, respecter le travail des autres, ça n'a pas respecté les autres. Donc, voilà, il y a tous ces problèmes-là, cela dit, évidemment qu'on parlera d'auteurs, et on a parlé, je crois qu'on avait annoncé, on va parler beaucoup de métaphysique avec Lévinas, mais pourquoi? Parce qu'il se trouve qu'à l'intérieur de ce discours, on a appelé la métaphysique, on ira voir, il y a bien un problème, c'est la question de la vérité, puisque. Si on fait la grosse, on verra que si on a les grands courants en métaphysique, ben, il y en a pour qui on n'a pas besoin de ce concept pour penser l'homme, l'âme, Dieu, etc. Et puis il y en a pour qui c'est une activité. Donc il y a deux courants, apparemment. Donc allons voir comment ils fonctionnent ce discours, et on verra bien s'ils disent ou non quelque chose. Et je voulais juste rajouter une chose, et puis j'arrête pas évidemment, mais juste rajouter une chose par rapport au repère. Quand il y en a, vous savez, l'histoire que tu as racontée, cet ami, moi, ça, je lis plus le journal de la même façon, je ne vois pas les informations de la même façon, etc. Il y a ça, mais il y a un autre père, si vous voulez savoir comment ça fonctionne, et comme justement en fin d'année, c'est Chatin qui vient nous voir, qui peut être pour voir si ça a fonctionné. C'est si vous sortez de ce cours au bout d'un an, ou ceux qui sont là depuis longtemps, j'imagine que du coup, ben, voilà, ça devient dramatique pour eux. C'est-à-dire que si vous sortez de ce cours avec l'impression que, à la limite, c'est l'inverse, que vous en savez moins, qu'au départ. Que vous êtes plus perdu qu'au départ. Qu'il y a plus de questions qu'il y en avait au départ. On a gagné. C'est chiant pour vous, je reconnais, mais nous, on a gagné, c'est notre cause. C'est le résultat qu'on va obtenir. Puisqu'il s'agit bien de la remise en cause des évidences que l'on croit être des vérités, etc. Sauf qu'il se trouve, on doit avoir l'impression, non, ça prend du temps, on doit avoir l'impression quand même que, bah, le peu de choses qu'on va en donner, bah, peut-être que c'est plus discutable qu'on le croit. Voilà. C'est ça que je dis, pour le faire.
Deux petits compléments pour illustrer la dernière partie. C'est Diogène le cynique, qui à propos de Platon dit, qu'est-ce que c'est que ce philosophe qui en 40 ans n'a pas été capable d'inquiéter qui que ce soit. Bon, ceci dit, ce que je veux dire, c'est que notre manière de procéder, en réalité, est extrêmement traditionnelle. Quand Socrate discute avec Calliclès, en l'occurrence, je crois, sur la justice, il lui demande, tu parles de la justice, c'est quoi la justice pour toi? D'où tiens-tu ce que tu dis sur la justice? Et ben, Calliclès, donc, voilà l'interrogation que Socrate lui demande. D'où tiens-tu ce que tu prétends savoir? Et l'autre donnée sur laquelle on ne réfléchit pas assez, mais qui pour nous a une importance, c'est que un des problèmes avec notre manière de procéder, c'est qu'effectivement nous ne faisons pas de l'histoire de la philosophie. Nous ne faisons pas non plus de la psychologie. C'est-à-dire que le vécu du thème, le vécu subjectif que chacun peut avoir, il a son importance, mais ça n'est pas notre propos principal. Et quand Socrate demande à Calliclès, c'est quoi la justice ? Que Calliclès, la justice, c'est faire ceci dans ce cas-là, faire ceci dans... Et Socrate dit, mais attends, tu prétends savoir ce qu'est la justice. Là, tu es en train de me donner des exemples de justice. Ça n'explique pas ce que c'est. D'où, de la même manière, les vécus psychologiques de chacun ont leur importance. Mais ce sont des vécus psychologiques qui sont contradictoires, ou qui peuvent être contradictoires selon les personnes. D'où, par-delà, ce vécu psychologique, eh bien nous pensons qu'il faut s'interroger sur que dit-on. L'an dernier, à propos du travail, précisément, on n'a pas arrêté d'essayer de faire ça. C'est que la structure du travail, l'organisation du travail, la façon dont le travail est structuré dans notre société, provoque des vécus psychologiques différents, contradictoires. Pour certains, c'est parfait, pour d'autres, c'est insupportable. Bien, est-ce que je peux remonter de mon vécu psychologique à la définition ou la conception de la structure qui le provoque ? Pas forcément. Et donc, c'est ce qu'il faut essayer de faire, remonter au-delà. À quelles conditions ce que je dis a-t-il un sens ? Et si ça n'est qu'au niveau de mes conditions psychologiques, ben, ça vaut pour moi. Ça ne vaut pas pour mon voisin. Parce que mon voisin, lui, il a un vécu psychologique différent. Ben, donc, allez voir. Si la même réalité provoque des vécus psychologiques différents, c'est que, en analysant le vécu psychologique de chacun, je ne suis pas vraiment plus renseigné sur la structure qui va provoquer mon vécu à moi, mais qui provoque chez l'autre un vécu différent. D'où, voilà un peu la difficulté, si vous voulez, auquel nous nous trouvons confrontés quand certaines personnes, eh bien, attendent de la philosophie, soit, comme Didier l'a expliqué tout à l'heure, un panoplie des idées philosophiques depuis l'origine jusqu'à nos jours sur le thème en question, ou bien quand chacun essaie de trouver dans la philosophie une réponse à sa question personnelle telle qu'elle la pose à travers son vécu. Donc il faut dépasser ce vécu et prendre en compte le fait que les vécus psychologiques, ils sont multiples et ils ne sont pas identiques. Et que donc, je ne peux pas me rester enfermé dans mon vécu psychologique. Et que la philosophie apporte peu de réponses aux questions psychologiques. La philosophie n'est pas la psychologie. La psychologie est une discipline à part. On pourra interroger, donc il y a à réfléchir dessus. Mais ça n'est pas la philosophie. Du moins, ça n'est pas la philosophie générale. Si vous voulez, ça n'est pas la pratique de ce qu'on appelle la philosophie générale. Effectivement, dans la classification universitaire, la philosophie, c'est l'histoire de la philosophie, la psychologie, l'esthétique, la philosophie politique et la philosophie générale. Donc il y a tout ça, mais tout ça n'est pas à mettre sur le même plan. Et ça, c'est pour les études universitaires. Vous voulez, quand vous voulez devenir un philosophe patenté avec les titres, tout ce que vous voulez. Donc il y a tout un tas de certificats de ce genre, bon, par lequel on est passé. Mais nous, ce que nous voulons faire, enfin ce que nous pensons faire, ça nous paraît une attitude extrêmement traditionnelle, c'est dans la ligne droite des premiers philosophes, qui justement, par rapport au discours mythique qui, à l'époque, permettait au monde, aux hommes de se représenter le monde, eh bien, on les interrogeait. D'où ça vient ? Et cette démarche philosophique a été à l'origine de beaucoup de sciences. Et beaucoup de sciences ont été initiées et même pratiquées par des philosophes. Mais ce n'était pas en tant que praticien de telle ou telle science qu'il faisait de la philosophie. Il faisait de la philosophie à partir de cela. C'était ce qui leur permettait, en remettant en cause un discours qui, à l'époque, était dominant, mais comme il n'y avait pas encore de discours différents, eh bien, la démarche philosophique de ces premiers philosophes les amenait à prendre en charge tel ou tel aspect, effectivement, de l'univers dans lequel on se trouvait. Et les premiers philosophes étaient des physiciens, Descartes c'était. Bon, ben voilà. Mais actuellement, je dirais un peu. On a toute une panoplie de sciences, de discours de type scientifique, qui prétendent apporter des connaissances sur tel ou tel secteur. Et en tant que philosophe, eh bien, on va faire notre travail. Qui est non pas d'apporter des connaissances comme eux le font, mais de réfléchir sur les connaissances disponibles, pour reprendre l'expression de Prince Pondy. Voilà. Voilà donc un peu comment on va essayer. Oui.
Est-ce qu'on peut se permettre de dire que ce cours, en fait, c'est un cours de méthodologie critique? Ou alors, ceux qui s'aventureraient à fournir un peu plus de en disant que c'est pas là pour faire savoir, mais pour donner un savoir-faire. Deuxième chose, et pour l'histoire des échanges, est-ce que.
Excuse-moi, mais est-ce que je peux mettre le micro plus près de ta bouche? Parce que je n'entends pas.
Donc, je disais, est-ce qu'on pourrait dire que ce cours pourrait éventuellement s'intituler une sorte de méthodologie critique appliquée à la fiction? Et deuxième chose, on s'aventure à la formule un peu plus jolie, si je peux me permettre, est-ce qu'on pourrait dire que vous n'êtes pas là pour faire savoir, mais pour donner un savoir-faire. Premier point. Deuxième question, est-ce que les résistances, alors pour retourner en psychologie, est-ce que les résistances ou barrages à un échange fécond ne se situent pas au niveau de l'ego et des affects?
L'expression que nous ne pensons pas avoir un savoir à vous transmettre ou éventuellement un savoir-faire, moi, me convient tout à fait. C'est effectivement, on apprend à réfléchir sur les discours disponibles. Donc, c'est un savoir-faire. C'est un savoir-faire qui, bien évidemment, peut se nourrir. Nous n'avons aucun mépris pour les philosophes qui ont émis telle ou telle idée, c'est pas le problème. Et vous avez tout intérêt à lire les philosophes. Mais en faisant cela, vous faites un apprentissage, vous faites de l'histoire. On peut faire de l'histoire de la philosophie sans jamais faire de la philosophie. Ce qui ne veut pas dire que l'histoire de la philosophie n'a pas de sens, et n'a pas d'intérêt. Si, il y a mal d'intérêt. Et la connaissance des philosophes, effectivement, peut aider grandement à ce savoir-faire. Parce que beaucoup, en même temps, eh bien, ont fait ce travail. Tout à fait. Donc, là-dessus, alors les autres questions que tu as posées, je ne me souviens plus trop.
Non, simplement, ce qu'elle passe à imaginer, je trouve assez bien tout ce qu'on a dit sur l'histoire de couple et tout. C'est que souvent, les problèmes qu'il y a pour mettre en place une discussion où on aurait cette sorte de recherche de savoir qui ne se contente pas simplement d'essayer de faire une propagande ou d'imposer un point de vue plus qu'un autre, mais de comment questionner ce qu'on sait ou ce qu'on ne sait pas, Est-ce qu'ils ne viennent pas? Alors, c'est une question en même temps, c'est une synthèse, si j'ai compris. Ça passe très souvent, un problème d'ego, un problème de, voilà, affectif qui fait que moi, je tiens absolument à ma position. Moi, je vais traiter en disant, le problème, c'est que les rapports de savoir, et on l'a vu d'ailleurs, pour ceux qui ont déjà, qui ont déjà un peu l'essence de SCO, ça apparaît des fois. C'est-à-dire qu'on peut avoir, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce qui était l'année dernière, avec l'histoire de, où tu te souviens, tu étais venu, tu avais fait la présentation du coaching, je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, ça a dérapé, c'était plus le problème de savoir, c'est quoi le coaching, comment ça se situe dans la, structurellement par rapport au monde du travail aujourd'hui, pourquoi le coaching aujourd'hui, pas avant, tout ça vient. Le problème, c'était les psychologues, leur rôle, et leur rapport de pouvoir. Je ne sais pas si ils sont là, d'ailleurs, quand je suis, je ne sais pas pour eux. Et qui sont partis qu'on n'a pas revus pendant quelques temps, hein, les psychologues. Voilà, qui, c'est dommage, parce que si on a des problèmes de psychologie, c'est bien d'avoir des psychologues parmi nous qui nous aident un petit peu, c'est bien. Mais, ça peut arriver, tu vois, c'est de temps en temps, tu as une discussion, ça peut déraper sur un rapport de pouvoir pour reprendre ton histoire de l'ego. Je ne sais pas ce qu'on va dire, mais l'idée, c'est simplement montrer que souvent, l'ego, la recherche d'une stature sociale, par exemple, un statut social, peut nuire, sans qu'on s'en rende compte d'ailleurs, peut nuire à la recherche, au questionnement. Parce que là, on ne se questionne plus, on défend un territoire, et on l'avait senti, je ne sais pas si c'était le coup, mais c'était clair. D'ailleurs, je trouvais que tu avais été, comme quelqu'un qui l'apporte, un peu plus haut. Non, tu as répondu. Je n'aurais pas voulu être un coach ce jour-là.
Ceci dit, ce que je retiens de ton intervention, et c'est une donnée dont il faut avoir conscience, c'est que les idées sont un enjeu de pouvoir. L'aspect idéologique des choses est un élément, on l'avait vu l'an dernier, à propos du travail, c'est que l'idéologie, c'est-à-dire l'ensemble des représentations à travers lesquelles on se représente notre univers, est un enjeu de pouvoir. Le débat d'idées, c'est un débat d'idées. Et c'est un débat, je dirais même, c'est un combat. Je prends un exemple comme Épicure. Pas Épicure parce que j'aime bien Épicure. Mais Épicure qui, en Grèce, eh bien, est un des premiers à développer une attitude que l'on dirait aujourd'hui matérialiste, si on veut, du monde. Alors Épicure faisait un grand scandale à son époque. Parce qu'il acceptait dans son jardin d'Épicure, où il philosophait, il acceptait les femmes, qui étaient à l'origine exclues. La démocratie grecque, c'est bien, mais les femmes en sont exclues. Et les esclaves, qui eux aussi. Et donc Épicure acceptait de philosopher avec les femmes et avec les esclaves. Bien. Épicure a écrit énormément de choses. Il nous en reste 4 lettres. La pensée d'Épicure a dominé en quelque sorte le bassin méditerranéen pendant 4 ou 5 siècles. Et puis, l'Empire romain chrétien, eh bien, a brûlé les œuvres d'Épicure. Donc, quand on dit que c'est un enjeu de pouvoir, c'est ce qui permet une domination. La domination, elle s'exerce effectivement sous d'autres formes, mais elle s'exerce aussi par votre tête. Ce que vous pensez spontanément d'une chose, ou vous estimez que vous en êtes le producteur, c'est votre fort intérieur, comme dirait Mustapha, qui est à l'origine de mes pensées. Ou, au contraire, eh bien, ces idées, elles vous ont été transmises. Mais elles vous ont été transmises comment? Par qui? Et voilà les interrogations que l'on peut se poser. Mais ça n'est pas des idées en l'air. Nous parlons en philosophie de manière souvent abstraite, mais de réalité extrêmement concrète. Et c'est ça qui est parfois difficile à comprendre. C'est que notre langage est parfois... Oui, il est conceptuel. Donc il est parfois difficile à saisir. Mais si nous parlons de choses en l'air, nous n'avons, ça n'a aucun intérêt. Nous parlons d'une réalité bien concrète où nous vivons. Et c'est ça la difficulté de la philosophie, en quelque sorte. Bien. Donc c'est un débat. Et on pourrait constater qu'actuellement, on ne débat plus. On parle. Mais quand on organise un débat, on commence à vouloir un modérateur. Pour modérer le débat. Comme s'il y avait à modérer un débat. Moi, je rêve d'un excitateur. Du débat. Parce que si on modère quelque chose qui est déjà extrêmement terne, ben on a un consensus mou qui là s'expose à travers des propositions apparemment contradictoires. Mais elles ne sont contradictoires qu'apparemment. Parce que fondamentalement, ces propositions contradictoires, eh bien, sont d'accord ensemble sur l'importance de la question posée. Le véritable opposant n'est pas celui qui dit non à celui qui dit oui à la même question. C'est celui qui dit votre question, monsieur, je ne la comprends pas. Votre question, je ne la rencontre pas. Votre question, d'où vient-elle? Vous dites oui, vous dites non, vous êtes fondamentalement d'accord entre vous pour que la question ait un sens et qu'elle soit importante. Pour moi, votre question, je ne vois pas comment y répondre, ni sous forme de oui, ni sous forme de non. Donc, cela, si vous dites cela, vous ne serez jamais invité une deuxième fois à la péritie. C'est dommage. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est le sentiment que vous avez, mais je me souviens quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant, on débattait, on refaisait le monde 20 fois par jour, à peu près. On ne dormait pas. On était dans les bistrots, et puis dans les boîtes de nuit. Et puis on débattait, on discutait, on s'engueulait. À l'heure actuelle, je pense que, je ne sais pas, je me trompe peut-être, parce que je ne suis plus très jeune, mais je ne suis pas sûr que cette réalité demeure. On est dans un consensus et on cherche à modérer un débat qui de toute manière n'existe déjà pas. Donc modérer quelque chose qui est déjà modéré, ça finit par devenir très plat. J'appelle un excitateur. Alors, ben, ça nous a posé quelques problèmes des fois l'an dernier. Parce que certaines personnes, c'est-à-dire, on peut débattre avec virulence. Mais tant qu'on débat avec virulence d'idées, on ne fait de mal à personne qui a des idées. Donc, autre chose, c'est de défendre avec virulence une position théorique comme en bas, autre chose est de s'attaquer à la personne qui développe ce débat-là. Tout à fait différent. Tout à fait différent. Et l'an dernier, alors, parce que j'ai parfois des expressions peut-être un peu brutales, si vous voulez. Mais ne vous effarouchez pas, ce n'est pas vous que j'attaque. Mais je combats les représentations idéologiques avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Quand je dis que je les combats, je ne veux pas dire qu'elles ne valent rien. Mes ennemis, la pire des stratégies, c'est de mépriser ces ennemis. Et de dire que ceux qui ne pensent pas comme vous pensent mal. Non, ils pensent bien. Ils pensent même mieux que vous. Ce qui dit que la foi est la vie est contradictoire avec sa foi, j'aime. D'où ça vient? Eh bien, ça vient effectivement de donner des conditions qui font que je pense ceci ou je pense cela. Et la philosophie générale, précisément, se donne pour tâche de remonter des discours qui sont tenus aux conditions qui leur permettent d'être énoncés par quelqu'un qui leur trouve un sens et d'être compris par ceux qui les entendent.
On pourrait dire que, en définitive, on est peut-être tous devenus philosophes.
On est tous devenus
philosophes.
J'espère.
À quoi ça sert de s'engueuler? À quoi ça sert de défendre les idées? Puisque, en définitive, c'est personnel. C'est une recherche à titre personnel, mais sur un plan d'ensemble, on voit bien ce qui se passe. La démocratie a des problèmes. Qui gagne? C'est jamais les démocrates. C'est ceux qui sont forts, c'est ceux qui ont des idées, c'est ceux qui s'imposent aux autres. Donc, c'est pas les philosophes.
Si
je suis philosophe depuis longtemps. Je n'ai aucune envie d'imposer quoi que ce soit.
Le problème n'est pas ça.
Je suis philosophe.
Le problème n'est pas ça. Est-ce que tu peux, pour toi-même, savoir pourquoi tu penses ce que tu penses? Pourquoi tu dis ce que tu dis? À quelles conditions penses-tu ce que tu penses? Le problème n'est pas de penser différemment. Je ne cherche pas à vous faire changer d'idée. Je ne passerai pas dans vos pensées, je l'ai dit. Simplement, si j'arrive à vous permettre de mieux savoir pourquoi vous pensez ce que vous pensez, quoi que ce soit que vous pensiez, et pourquoi le pensez-vous? D'où vient que vous le pensiez? Voilà le travail que je chercherai à faire. Si tu peux répondre à cela, tu es devenu philosophe. Parfait. La profession est large. Et donc, sans problème. Mais c'est cela qui est important. Pourquoi je pense ce que je pense? D'où vient que je pense ce que je pense? Alors, les réponses peuvent être différentes, mais les réponses qui sont différentes, il faut remonter. C'est pour ça que je dis les conditions qui font que ce que je dis a un sens. Il a un sens, je le comprends, et j'espère que vous comprenez ce que je dis. En comprenant ce que je dis, vous ne comprenez peut-être pas ce que je dis. Vous comprenez ce que vous entendez. Et ce que vous entendez n'est pas forcément ce que je dis. Le problème est là aussi, c'est que à quelles conditions, eh bien, vous comprenez ce que je dis de telle ou telle manière, qui n'est pas forcément ce que moi je présente digne. Oui, je vois.
Ah ben oui, bien, bonjour.
Bonjour.
J'ai un problème. Et le problème, il est avec vous. Pourquoi vous avez la connaissance et nous, on l'écoute. À partir du moment où vous avez la connaissance, vous avez un pouvoir sur nous. Et donc, comment peut-il y avoir un rapport d'altérité entre vous et nous?
Pas en quoi le problème que nous ne sommes pas équivalents empêche l'altérité. Au contraire, elle pose la nécessité de l'altérité dans la mesure où vous êtes encore là. Effectivement, là, si moi je peux parler et être derrière l'estrade, et pas vous, ça tient à des données historiques, sociales, qui fait que ben, je travaille dans le cadre de l'UIAD, et que quand ils ont eu besoin de bénévoles pour la philosophie, ben, ils sont venus me voir. Et que j'ai accepté. Nous, effectivement, j'ai un pouvoir. Votre cerveau ne sortira pas d'ici tel qu'il est rentré. Bien sûr, parce que les neurosciences nous disent, c'est que la parole transforme. Bien. Donc j'exerce un pouvoir. J'exerce un pouvoir. Ce pouvoir, vous avez toute la possibilité de l'éviter. De ne pas venir. Personne n'est obligé de suivre et de m'écouter. Si vous m'écoutez, j'espère que quelque part vous y retrouvez votre compte. Je vais vous dire bien souvent que le principal bénéficiaire, c'est moi, de ces cours, et pas vous. Mais il faut bien que vous en retiriez quelque chose. Sinon, je vous en prie, et ça n'enlèvera rien à l'estime que je peux avoir pour vous, dans la mesure où je vous connais un petit peu. Les portes sont grandes ouvertes. Nul n'est obligé de m'écouter. Nul n'est obligé de m'écouter. Et je ne fais pas de publicité pour rameuter les noms. À la limite, je dirais que ce cours, au moins en ce qui me concerne, est pour moi précieux. J'ai beaucoup d'intérêt à faire ce cours. Bon, quelque part, ça me permet de vivre. Mais j'arriverai à vivre sans enseigner. J'ai enseigné quand j'étais jeune. J'ai démissionné quand j'étais un petit peu moins jeune. J'ai repris l'enseignement et je suis devenu vraiment tout à fait moins jeune. Bien. Mais donc je n'ai pas toujours enseigné. D'où la relation de pouvoir, par contre, va poser un problème au niveau de la théorie. C'est comment concevoir la théorie dans une relation de pouvoir. Tout à fait. Mais ça, on aura l'occasion d'en parler. On ne va pas tout faire ce soir. Enfin!
Moi j'ai pensé très vite, je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que tu comprends.
Pardon?
Je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. Oui.
Je ne sais pas si vous êtes responsable de ce que vous comprenez, mais de toute façon, si vous comprenez ceci plutôt que cela, il y a des conditions. Il faut que vous, au niveau de la philosophie, de la pratique philosophique en ce qui vous concerne, d'où vient que vous comprenez de telle manière. Ce que par contre est compris peut-être d'une autre manière par quelqu'un d'autre.
Mais c'était pour rebondir sur le pouvoir, hein, le pouvoir de Dieu, le pouvoir de la parole.
Le pouvoir de la parole, n'importe qui ne peut pas parler. On n'invite pas n'importe qui à la télévision. On n'invite pas n'importe qui. N'importe qui ne peut pas parler. Le droit de parler, bon, c'était quelque chose qui, quand on faisait des cafés philo, justement, contre lesquels on battait, c'est qu'on permettait, à tout un chacun de parler sur des questions sur lesquelles il n'avait pas l'autorisation de parler. Donc, mais voilà, donc mais la parole est un enjeu de pouvoir, effectivement. La parole est un enjeu de pouvoir qui actuellement est distribué ben, par les diplômes, par ceci, par cela, les situations sociales, et qui fait que ben, la renommée, et que, qui fait que ben, un tel va passer à la télévision très souvent, tandis que d'autres ne vont pas les passer, etc., etc. Donc ce n'est pas un besoin, non. Bien sûr.
C'est juste une question de compréhension plus facilement entendue. Tout à l'heure, vous avez dit à quelles conditions pense-t-on ce que l'on pense. Quand vous parlez de conditions, de quoi parlez-vous?
À quelles conditions on pense ce que l'on pense?
Oui, conditions, qu'est-ce que vous entendez par conditions?
Les conditions, c'est les conditions à la fois contextuelles et conceptuelles. C'est-à-dire que ce que vous pensez, ça vient d'où? En êtes-vous l'auteur de vos propres pensées? Êtes-vous l'auteur de vos pensées? Certains le pensent. Personnellement, je ne le pense pas. Je ne suis pas l'auteur de mes pensées. Je suis celui qui exprime des pensées. Mais ces pensées ne sont pas les miennes. Elles sont les miennes, bien sûr, parce que c'est moi qui les prononce. Mais elle me renvoie bien souvent à la réalité sociale, idéologique, auquel je me réfère. D'où il est important, et je sais que tout à l'heure vous avez dit ça, de ne pas contre la formule penser par soi-même. Apprendre à ses élèves à penser par soi-même. J'avais scandalisé une collègue en disant que, ben, en faisant ça, c'est le meilleur moyen pour leur permettre de penser comme tout le monde. Le problème n'est pas de savoir s'ils vont penser par eux-mêmes, ils ne penseront pas par eux-mêmes, mais de savoir justement par qui ils pensent, d'où vient ils pensent. Ça, c'est plus important que de leur dire penser par eux-mêmes. On ne pense jamais par soi-même. Et penser par soi-même, on ne voit pas comment on peut faire. Il ne faut pas penser pour penser par soi-même. Et c'est tellement une mode de vouloir penser les gens par eux-mêmes que précisément ça confirme mon idée que c'est le meilleur moyen de penser comme tout le monde. Tout le monde peut penser par lui-même. Moi je ne pense pas par moi-même. Les pensées ne sont pas mes pensées, elles me résistent. Si j'en étais l'auteur, je pourrais m'y opposer. Je pourrais changer d'idée comme ça, là. Essayez de changer d'idée sur les sujets qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez changer d'idée. C'est un long processus. On peut effectivement changer d'idée. Mais c'est un long processus qui suppose des conditions. Qui sont des conditions qui sont de l'ordre de la pratique, de l'ordre de l'insertion sociale. Et je ne trouve pas d'idée comme ça. Je ne décide pas de penser différemment de la façon dont je pense. D'où le problème n'est pas de savoir si je pense pas moi-même ou pas. Le problème est de savoir d'où je pense. Et je vous invite à précisément vous interroger plus de la manière d'où pensez-vous. Quand je dis « vous pensez-vous », ça, les conditions qui font que vous pensez ce que vous pensez. Donc, quelle est votre pratique sociale? Quelle est votre insertion sociale? Quel est votre vécu personnel? Quelles sont vos préoccupations personnelles? Tout cela fait que vous pensez ce que vous pensez. Et l'opposition entre ceux qui ne pensent pas comme moi et ceux qui pensent comme moi, fondamentalement, on ne tient pas à ce que eux pensent mal et que moi je pense bien, ou c'est l'inverse, que eux pensent bien et que moi je pense mal. A priori, on pense bien tous les deux. Et nous n'avons pas le même vécu. Nous n'avons pas les mêmes intérêts, nous n'avons pas les mêmes tripes. Nous ne sommes pas taraudés par les mêmes questions. Et nous sommes des animaux. Et on l'oublie trop souvent.
Tu dis qu'on ne peut pas changer facilement de pensée.
Je n'ai pas dit ça. Je dis qu'on ne peut pas changer comme ça, on ne peut pas décider de changer, que c'est un long processus.
Il peut être aussi rapide sous l'effet d'un choc.
Il peut être rapide s'il y a un événement particulier qui vient vous frapper, auquel vous ne vous attendez pas, la mort d'un de vos enfants, par exemple. Si vous êtes.
Vous se pensez être confronté avec la réalité de ce qu'on pense.
Bien sûr. Sinon,
on peut s'apercevoir que ce qu'on pensait n'était pas la réalité et changer complètement.
Tout à fait.
J'ai un exemple de collègues qui avaient des idées sur des cultures étrangères, qui se sont retrouvés avec leur séjour dans les pays en question. Quand ils sont revenus, ils n'avaient pas du tout les mêmes idées.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai.
Oui.
En fait, j'arrive pas à comprendre comment un débat peut naître et quelle est l'utilité du débat. Je suis pour rester quand même propriétaire, rester fidèle à ses pensées, on va apprendre à savoir si on pense bien, mais est-ce que l'échange est quelque chose de... Comment un débat
égalitaire se met ? Un débat peut naître dans la confrontation de différents points de vue. Un débat est utile dans la mesure où il vous permet, partant du fait qu'on ne pense pas tous comme vous, d'essayer de réfléchir en ce qui vous concerne, d'où vient ce que vous pensez, ce que vous pensez. Il est utile à ce niveau-là. Ça nous permet, comme nous le dit vous ne devenez pas une spécialiste de quoi que ce soit. Vous devenez une femme libre par rapport à vous-même. Vous vous êtes approprié une partie de vous-même que jusqu'à présent vous ne vous contentiez de vivre sans savoir d'où elle venait.
Par rapport à l'autre, qu'est-ce que ça me donne, qu'est-ce que ça m'autorise de savoir ce que je pense, ce que je viens de penser, par rapport à un autre individu, est-ce que ça m'autorise à lui dire ce que je pense?
Ça m'autorise à ce que vous voulez, vous avez de parler, c'est celui qui écoute, c'est celui qui écoute en parlant du âge, mais ça ne nous autorise pas à dire que l'autre est un imbécile parce qu'il ne pense pas comme vous.
Dire ce que je pense, en arrière-pensée, c'est peut-être une intention de pouvoir, de vouloir des partages, mes idées aussi.
Non, non, parce que vous allez dire à votre voisin ce que vous pensez, que vous exercez un pouvoir sur lui. Vous exercez éventuellement une influence. Mais exercer une influence, c'est pas exercer un pouvoir. Donc, heureusement qu'on peut parler à ses voisins. Heureusement que vous pouvez dire ce que vous voulez dire. Après, il attend de parler. Si vous avez besoin de parler, il va parler. Et puis, celui qui écoute, il en pense ce qu'il en veut. Ou ce qu'il en peut. Autre chose est que pour des conditions particulières qui sont les vôtres, le fait de penser ceci vous donne un pouvoir sur l'autre. C'est autre chose. Et que ça va vous autoriser parce que vous pensez différemment de l'autre, si vous êtes un chef de rayon, de l'expédier au calendrier. Si vous êtes ceci, mais ça c'est autre chose, c'est les conditions de pouvoir dans lesquelles vous vous trouvez qui vous permettent ça, c'est autre chose. Didier m'a dit parce que comment on ne fera pas le temps. On aura l'occasion de reparler de tout ça.
Non, mais c'est important d'être Oui, d'avoir des moments comme ça, on clarifie quand même son fait, on le fait. Après, la vérité, de toute façon, c'est vrai qu'on a eu plus d'une heure hein, sur la vérité, pour présenter les groupes qui vont suivre, ils auront des questions dans la fin du projet, parce que là, tu peux donner, évidemment, c'est pas tout, parce que tout ce que tu as dit, mais au moins, un résumé, ensuite, tu peux commencer à préparer les groupes qui vont venir, et éventuellement, s'ils ont commencé certaines lectures, puisqu'on avait donné du relation en juin, ça peut-être, voilà, peut-être relire certaines choses, une fois que vous avez tourné du coup, c'est la problématique. Donc là-dessus, oui, en quelques minutes, je peux donner un renseignement, même si, évidemment, le temps qui reste, le temps que je ne voulais pas, je ne peux pas vous donner l'argumentation qui va avec, on y reviendra un peu plus tard. Alors peut-être, pour aller plus vite d'ailleurs, on vous a proposé deux textes, il y a le texte de Paul Roy qui introduit évidemment la démarche, la philosophie en général, tout ce dont on vient de voir. Mais on va y revenir de toute façon parce que, on l'a bien vu l'année dernière, on va le voir encore cette année parfois, parfois ce que vous avez dit sur le débat, c'est vrai que c'est difficile, il y a des moments c'est décourageant, c'est-à-dire à quoi ça sert, quoi, si c'est pour arriver au même résultat que le point de départ. Quelle est l'utilité au fond de ça, et ça peut être quelque chose qui est tout. D'autant que je comprends que la réponse de Bernard est pas évidente parce que c'est pas facile de répondre aussi à ça, tout simplement parce qu'il se peut que c'est une aucune utilité particulière non plus. Les plans disent très bien, les gens disent très bien sans poser de questions. Si c'est une question d'utilité et que ça rapporte, il est possible que ça rapporte rien en plus. Donc il est difficile, en plus ça rapporte rien. Donc, je comprends que c'est pas facile. Hein. Voilà, donc c'est une discussion, on va les revoir. Alors sur la question de l'altérité, du coup, je trouve intéressant malgré tout, on répond à cet angle-là, ça introduit bien ce que dit Bergson. On a choisi le texte de Bergson. On a choisi le texte de Bergson que vous avez là pour introduire le thème. Bergson dont on reparlera peut-être un peu lorsqu'on abordera la question de l'évidence, parce que c'est même pas évident, parce que comme Bergson était un métaphysicien, donc peut-être qu'on y fera référence, puisqu'on va parler de l'évidence par rapport à la métaphysique et de l'évidence, c'est un contemporain de Bergson, donc il y aura une discussion entre les deux ça, à ce moment-là, mais c'est pas ça qui nous intéressait, c'est Bergson, mais ça va plus qu'il y a quelqu'un d'autre, qui semble intéressant sur plusieurs titres, au moins trois, il y en a plus, mais là je vais réduire à trois, il y a au moins trois titres pour lesquels les passages sont intéressants. Tout d'abord par rapport au cours lui-même, donc ce que vous avez, le programme et la biographie qu'on propose par rapport au cours lui-même, à ce titre-là, il est intéressant parce que il nous a semblé, et ce texte-là, on l'a choisi quasiment en même temps qu'on a choisi le texte est venu, donc on n'a pas de filmé, vous voyez, enfin un grid délumé, on savait qu'on allait mettre ce texte-là, c'est-à-dire avant même qu'on réfléchisse au thème, etc. Donc dans un premier temps, oui, il est intéressant à ce titre, tout simplement parce qu'il semble que dès la première, si vous regardez, alors c'est un découpage, c'est un montage, mais l'idée principale de Bergson dans ce passage, qui est un passage qui nous laisse intéressant, il est sûr d'avoir une intervention, c'est qu'en fait, précisément, il semble que ça pointe précisément le préjugé qu'il est intéressant de remettre en cause si on veut qu'il y ait une discussion. Il y a un préjugé, en fait, de la question de la vérité, il semble que Bergson aborde les choses où on a l'impression qu'il y a une remise en cause de ce préjugé. Donc ça nous a paru une bonne ouverture pour la discussion, puisqu'apparemment, c'est lui qui remet en cause un préjugé assez commun, en fait, cette question-là. Alors, de quoi s'agit-il? C'est bien ce qu'il dit, mais on se sent bien avec les autres, on aime ses proches, mais fondamentalement, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est pas on est bien avec les autres, mais on rencontre d'autres, puis un peu se poserait la question de l'altérité, du rapport à l'autre, enfin, tout ce qu'on va voir, parce qu'il y a des distinctions à faire de ça, évidemment. C'est plutôt l'inverse, en fait. C'est parce qu'il y a des rencontres avec d'autres qu'on est bien ensemble. Comme si la cohésion, quand Bernard disait tout à l'heure, vous reviendrez bien sur ce que je disais, penser par soi-même, que moi, c'est mon fond de commerce, hein, j'ai des terminales, donc je passe mon temps en vendre cette idée, pensez pas vous-même, etc. Donc je ne sais pas si je n'ai pas à faire non plus sur cette question-là. Il y a quand même cette idée, donc on pourrait dire que penser par soi-même, c'est, on avait dit à la discussion qu'à Bernard a répondu, c'était la remarque, je ne sais pas votre nom, mais une remarque que vous faisiez, qu'est-ce que vous voulez dire par les conditions de sa pensée? Qu'est-ce qu'il a répondu? C'est que on n'est pas maître, on n'est pas auteur de sa pensée. Donc, sous-entendu, il y a une altérité, il y en a d'autres. Ce que vous appelez vous, c'est pas vous, en fait. C'est d'autres. que après coup vous appelez vous. Mais sans ces autres, il n'y aurait pas de vous. Il n'y aurait pas d'intérêt. Donc c'est cette inversion-là qui me paraît intéressante, parce que très souvent, la question de l'actualité, on le voit bien sur l'actualité du journal, parce que c'est un troisième niveau dans le texte, on le voit bien, très souvent, c'est plutôt l'inverse. On fait comme si l'actualité était un problème, une relation, une mise en relation entre deux choses qui sont opposées en quelque sorte, et puis après, voilà, comment se constitue, comment on va gérer cette altérité, et si c'était l'inverse, si l'altérité précédait ces relations. C'est pas, il n'y a pas les uns et les autres, et puis donc des phénomènes d'altérité entre les uns et les autres, il y a à l'intérieur même de ce qu'on appelle les uns et les autres, comme condition des uns et des autres, déjà l'altérité. Donc une sorte d'illusion permanente qui semble intéressante de creuser, que personne analyse assez bien, enfin, la façon évidemment, la façon de personne, mais qui est, il exprime assez clairement. On le voit dès le début, c'est le début du texte. On est bien avec ses proches, on aime ceux avec qui on vit, d'abord contre les autres. Pas, on n'est pas d'abord ensemble et puis ensuite on rencontre les autres, on est contre les autres. C'est parce que, il y a cette, on est bien entre nous en famille, parce que, regardez les discussions entre nous lorsque les portes sont fermées sur les voisins. Ce n'est pas les mêmes discussions que lorsqu'on rencontre le voisin. Et on se sent bien, ça fait partie du jeu. C'est cette idée-là. Je ne sais pas si vous, si je. C'est vrai que je vais être un peu plus, mais si ça s'éclaire comme ça, ça m'arrange pas pour la suite, mais est-ce que ça vous va? C'est-à-dire, l'idée qu'on a un présupposé, c'est que l'altérité, pour pouvoir en parler, il faut déjà dire là, qui, contre qui, etc. Alors qu'avant même, lorsqu'on parle de qui, si vous voulez, on a déjà de l'altérité à l'intérieur de ça. C'est comme si l'altérité précédait l'existence des choses qu'on met en rapport dans l'altérité. Ça va? Donc c'est pas facile, on y reviendra, c'est un peu la trame du cours, si vous voulez. Donc c'est vraiment l'idée qui me semble, parce que même compris comme ça intellectuellement, ça ne veut pas dire qu'on la saisit tout de suite. Sorti d'ici, on continuera à vivre comme si c'était l'inverse. C'est ça le problème. Et puis il faudra peut-être un peu de temps pour réaliser tous les enjeux de ce renversement. Alors, ça c'est le premier niveau. Alors, premier niveau, évidemment, par rapport. C'est surtout par rapport à l'idée qui nous semble la plus intéressante à discuter pour qu'il y ait une véritable discussion philosophique, pour le coup. Philosophique, parce que tous les discours qui sont tenus sur ces questions-là, du coup, à ce point, ils se font, ou ils partent de ce qu'ils disent, s'il n'y a pas une autre façon d'aborder les choses, voilà une discussion. Deuxième niveau dans le texte, j'ai dit trois niveaux, mais il y en a plus, mais j'en distingue trois pour la présentation, on reviendra plus tard. Il y a un deuxième niveau qui semble intéressant dans ce texte, c'est le paradoxe, en fait. Il y a un paradoxe. Entre le début du texte et la fin du texte, il y a vraiment un paradoxe, on y reviendra, et qui me semble être une sorte de deuxième préjugé, au fond. Ça peut être l'occasion de remettre en cause un deuxième préjugé, qui est l'idée que si c'est contre les autres que nous sommes bien ensemble. Si on se sent bien avec les proches, c'est en fait parce qu'il y a déjà d'autres, et qu'il y a une sorte de, c'est un simple dit, un simple métier, qui sont de survie, donc on se resserre un peu. Alors, que ce soit même si c'est entre individus, sur la communauté, si c'est entre familles, entre voisins, etc. Mais, on voit bien qu'il y a ça. Sauf qu'il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe, c'est que dès qu'il est question de l'humanité, pas de tel groupe, pas de tel individu, mais dès qu'il est question de l'humanité tout entière, si on dit que la condition de la cohésion, du fait qu'on est ensemble, c'est le fait d'être contre les autres. Il n'y a pas d'autre. L'humanité, c'est l'humanité. Il n'y a pas autre. Comment on va obtenir cette cohésion? Puisque le principe de cette cohésion, c'est la théorie. Vous voyez le problème? C'est ça, c'est ce problème-là que soulève très bien Bergson. C'est pour ça qu'on a situé ce passage à ce niveau-là, on a découvert beaucoup de choses. Allez voir vous-même, hein, c'est. On trouve ça dans la première partie, il y a quatre parties. La première partie qui dit très bien des choses de la morale et de la religion. Bergson est un écrivain, un philosophe bien sûr, mais c'est un écrivain qui préfère avec les trois pages que Rousseau utilisait un terme technique, donc il se lit très bien. Du coup, un peu, il faut s'en méfier, hein, parce qu'il s'exprime tellement bien qu'on croit avoir compris, donc on peut peut-être lire aussi. Mais très simplement, je veux dire, bien très simplement, c'est pas un philosophe, là, c'est un philosophe qui avait horreur des termes techniques de la philosophie. Donc il préférait les trois pages plutôt que d'utiliser les termes transcendants, vous voyez. Donc du coup, je vous engage à aller voir vous-même le reste de la démonstration, si vous voulez. Voilà, alors le deuxième niveau est intéressant parce qu'il y a un paradoxe. C'est pas seulement on en cause un préjugé, c'est que la remise en cause de ce préjugé amène un paradoxe qu'on n'a pas si on a les idées inverses. J'explique. C'est-à-dire que si on part qu'on est bien ensemble, d'abord, que parfois il peut y avoir des problèmes avec les autres parce que le bien ensemble là peut être en contradiction avec d'autres bien ensemble. Vous me suivez? On peut, c'est-à-dire que le fait qu'ils me sentent bien dans ma famille, d'accord, bah, comme il y en a d'autres familles que je dois rencontrer, parfois ça se passe mal parce que c'est des bien ensemble, ils sont bien ensemble, mais différemment de moi. Je ne fais pas, dans ce sujet-là, je ne fais pas du rapport à l'autre de l'être élevé à condition de la cohésion. Elle est déjà là, en fait, ma cohésion. Vous voyez si j'en reste là, évidemment, je n'ai pas ce paradoxe. Parce que je vais passer de la famille au quartier, du quartier à la nation, de la nation à l'humanité, de manière continue, de proche en proche. Mais si, comme l'a dit personne, parce que nous, ça nous paraît intéressant d'interroger sur cet angle-là, effectivement, l'altérité est première. Et que la condition d'être soi, soit soi-même en tant qu'individu, soit en tant que proche, si vous voulez, et bien que c'est justement l'altérité. Bien là, on a effectivement un paradoxe et on ne comprend pas comment c'est possible une humanité qui serait totalement cohésive. Ça paraît peu probable, puisque, donc du coup, tout, ça veut dire qu'il n'y a pas de continuité, il n'y aurait pas de continuité entre le fait de la façon dont on se sent bien ensemble avec ses proches, ensemble dans une nation, et ensemble au sens de l'humanité. Que c'est du, on passe d'un, c'est pas une différence de deux têtes. On passe d'une manière de faire d'être à une autre. Parce que la condition a disparu. Parce qu'au niveau de l'humanité, il n'y a pas d'autre que l'humanité. Donc, comment passer ensemble si la condition c'est vraiment l'altérité? Et c'est là où il y a deux propositions. Alors, on verra qu'il y en a peut-être une troisième. Là, j'ai pas le temps de développer, je suis désolé, mais on se reviendra. Il y a deux propositions de personnes qu'on va retrouver au fond tout au long de ce cours. Hein, qui sont tout le temps là. Avec les finances, avec tout ça, mais même les sociologues, les psychologues, tous ces discours qui prétendent dire ces choses, c'est pas l'envoi. Il y a deux réponses, mais qui relèvent de l'acquis. C'est comme si on était bien avec ses proches, de manière un peu lignée, quoi, un peu primitive, vous voyez, pour se défendre de ce qui vient de l'extérieur, parce qu'il y a un extérieur. Au niveau de l'humanité, non, ça s'apprend. Ça passe soit pas, parce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord avec personne, mais pour lever le paradoxe entre le fait que pour être ensemble, il faut d'autres, et que l'humanité, il n'y a pas d'autres. Donc comment on va faire pour être ensemble? Bon, troisième niveau du texte, évidemment, le monde des réfugiés qui luttent parfaitement ce dont parle personne. Simplement, voilà, c'est-à-dire que il y a deux grandes manières de l'acquérir, soit la religion. Le discours religieux qui va vous expliquer, même si c'est très difficile, il y a des religions, etc., mais qui va vous expliquer que d'un autre point de vue, qui n'est donc un autre de l'homme, le divin, qui n'est pas l'homme, mais du point de vue du divin, de ce point de vue-là, sous ce regard-là, l'humanité, au sens d'une cohésion au niveau de l'humanité tout entière, est possible. Et ce point de réfugié, les religieux, ne se trouvent pas d'intervenir pour expliquer que il y a peut-être un travail à faire à ce niveau-là. C'est parce qu'ils ne vivent pas comme nous, ils ont d'autres besoins de nous, etc. Ils ne sont pas des êtres humains, etc. Vous voyez l'idée? Ça, c'est la première façon, en fait, de lever le paradoxe. Après personne, on y reviendra. La deuxième façon, c'est en fait, tout va se faire l'humanisme, la philosophie. Le fait, alors c'est plutôt par rapport à l'animal, d'ailleurs, que par rapport au divin, c'est le fait que les êtres humains auraient, il y aura une sorte de point commun sur lequel on peut s'appuyer, bon, on voit bien qu'il faut l'acquérir, il faut le penser, c'est moi des valeurs, et, la raison. Quel que soit l'être humain, et quelle que soit sa culture, dans l'humanité, il y a quand même quelque chose qui fait son humanité, c'est le fait d'être capable de raisonner, de réfléchir, etc., chose qu'on peut discuter aussi. Et là, c'est plutôt la différence avec l'animal, d'ailleurs, que le divin. C'est-à-dire que, quelque part, l'humanité se distingue de l'animal par cette faculté, cette capacité qu'on peut reconnaître. On voit bien que ce n'est pas évident. Parce que, comme on a vu tout à l'heure, dans le débat sur la philosophie, quelqu'un, quand un ami dit « mais celui qui ne pense pas comme moi, il pense pas mal », c'est très souvent dans la vie de tous les jours, lorsque quelqu'un ne pense pas comme moi, j'ai l'impression qu'il ne pense pas, quoi. Donc il ne réagit pas. Donc c'est très difficile d'attribuer de la raison à quelqu'un qui n'est pas comme ou qui ne pense pas comme nous. Même si, évidemment, c'est ça qui est visé. Et ça, c'est alors là, c'est personne qui dit c'est plutôt les philosophes qui ont fait ce travail-là, ou la philosophie, on dirait les laïcs, aujourd'hui, c'est les gens qui vont chercher un autre point d'appui pour des valeurs qui nous permettent d'être ensemble que simplement religieuses. On n'est pas obligé de croire en Dieu pour se sentir ensemble. Voyez, c'est un autre discours qui existe aussi, évidemment, aujourd'hui. C'est un autre discours qui se met en place. Mais on voit bien qu'on prenne le discours religieux ou le discours des valeurs humanistes, on va dire, humanistes, vous voyez. Là, c'est des discours qui s'acquièrent, qui vont passer par l'éducation, qui vont passer par. Il va falloir convaincre. Puis c'est pas inné dans le sens qu'on ne se sent pas directement, de manière comme ça, évidente, psychologiquement immédiate, si vous voulez, proche de celui qui n'est pas comme nous, qui n'est pas comme nous. Alors qu'on se sent, évidemment, très vite proche de celui qui est chez nous, qui est à côté de nous, évidemment. Donc là, il y a vraiment une coupure en saut de l'un à l'autre. Et là, bah, t'as vraiment beaucoup d'idées, on fera ça, on verra ça, de beaucoup de philosophes dans l'histoire, sur ces questions-là, les identités, ont plutôt vu, je pense à Aristote, par exemple, et aussi Lucrèce et d'autres, qui ont plutôt vu, aujourd'hui, il y a des discours-là qui existent, une continuité, c'est-à-dire on passerait de proche en proche, de la famille à au citoyen, du citoyen à la nation, de la nation à l'humanité. En fait, c'est plus compliqué que ça, et qu'il y a comme une, il y a comme un niveau au-delà duquel on ne peut pas aller, sans faire un effort, sans poser d'autre chose que simplement le sentiment naturel d'être avec quelqu'un. Ça va? C'est un peu rapide, je m'en excuse, mais c'est un peu le fond de la terre. Par rapport au programme, bah, du coup, je vais te parler du troisième jour, évidemment, en deux minutes, mais là, si on reste sur le deuxième niveau, évidemment, par rapport au programme, bah, vous voyez, c'est-à-dire que, comme on a dit en introduction sur la philosophie en général, eh bien, on va aller voir, justement, ce présupposé, ce préjugé selon lequel, bah, l'altérité, pour comprendre ce qu'est l'altérité, il faut comprendre qui, quoi, comment les choses sont en relation et qui constitue cette altérité. Et puis, il est possible que là, le problème, c'est qu'effectivement, bah, il faut peut-être voir les choses autrement, c'est qu'il faut peut-être partir de l'altérité pour comprendre pourquoi il y en a deux qui sont en jeu et quoi, quelque chose peut-être en nous, moi, bon, j'avais donné le comme je crois pas l'exposition de Rimbaud, hein, je vais être un autre. Alors, il y a un peu cette idée-là pour la reprendre, évidemment, hein, approfondir. Et comme on est là pour utiliser le discours, on ira voir en premier, on a très bien développé ça sur le vécu, allons voir en premier ce qui nous parle de notre vécu par rapport à ça, les psychologues, les sociologues. Donc ça va être, on a appelé ça l'altérité dans notre vie quotidienne. Il sera question, évidemment, de ces questions-là. Le prochain cours, bah, ce sera d'abord la définition, peut-être se mettre d'accord, voir, wow, je ne sais pas si on y arrive, mais c'est quoi l'altérité? L'altérité, attention, l'altérité, ce n'est pas autrui non plus. Même si on sent qu'il y a un lien, c'est les mots, s'il y a deux mots différents, c'est que ça doit désigner d'autres choses. L'altérité, est-ce que c'est l'opposé d'identité? C'est quoi l'identité? Voilà, parce qu'il va falloir un travail de mots. La prochaine, le prochain cours, travail de vocabulaire, ensuite, va le voir dans notre vécu. Il se trouve qu'il y a des discours qui prétendent savoir, il y a des discours des psychologues et sociologues. Là, par rapport aux outils qu'on vous a donné, alors il y a essentiellement classé, dominé, qui sont les autres qui ont un peu de point de départ, en fait, de notre réflexion. C'est une historienne, philosophe, qui a fait la synthèse, en fait, de ces questions-là, c'est intéressant. Loin de moi, l'étude sur l'identité, de aussi, évidemment, l'idée qui sera directement, enfin, je n'ai pas le temps de le développer, je regrette, mais on y reviendra. Chaque si vous voulez, en gros, son idée, c'est que, trop parler de soi, 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 profiter de soi-même, se connaître soi-même, un peu ce que disait Dana sur penser par soi-même, tout ça, c'est un peu vide, quoi, c'est une perte de temps. Souvent, ce qu'on appelle soi-même, c'est des identités d'emprunt, c'est-à-dire, tu viens, puis on a le plus important, c'est des imitations. L'autre est souvent là, il n'y a pas vraiment de soi-même. Enfin, c'est un peu, je simplifie, évidemment, c'est pour montrer un peu c'est intéressant, c'est une de notre vécu, c'est une de notre vécu. Vendredi, on est lundi pacifique sur l'intéressance pour cette première partie, puisqu'il est question justement de la manière dont quelqu'un qui se trouve seul sur une île déserte, qu'est-ce qui se passe? Et on va tourner, il analyse très bien ça, alors il faut prendre de lui, peu importe, mais il analyse très bien ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, les choses qui nous paraissaient les plus évidentes sur nous-mêmes et même sur le monde, le temps, l'espace, disparaissent, c'est bizarre. Hein. Comme si l'autre était la condition de ça aussi, de notre perception à nous, ce qu'on appelle nous, du monde, vous voyez, quand on croit être comme ça, quand on croit être origine. C'est bizarre, cette sensation. Donc c'est intéressant, là, ce qu'il dit. Le autrui, alors ça en fait partie, mais ça fait un peu partie de tout, c'est un recueil, on vous le donne. Alors là, pour le coup, ça va faire plaisir à ceux qui sont là pour l'histoire de la philosophie. C'est un recueil, où c'est des textes, un peu fondamentaux, entre guillemets, qui fondamentaux sur la vérité, sur autrui, la vérité, etc., de Platon aujourd'hui. voilà, on peut aller piocher là-dedans quelque chose de façon qui sont pas intéressants. Là, c'est toute l'histoire de la philosophie, une sorte de support manuel, si vous voulez. Ensuite, on verra la métaphysique, pourquoi ? Parce que, alors, même si on n'a pas le temps, mais on verra que derrière ce qu'on appelle notre vécu, ce que disent les psychologues, les sociologues, qui eux sont des experts, évidemment, on est là pour les interroger, il y a effectivement un présupposé qui est intéressant, c'est que très souvent on fait de la métaphysique sans savoir. C'est-à-dire que très souvent, on parle de ces choses-là, mais même en psychologie, en sociologie, mais même dans la vie quotidienne, on verra pourquoi et comment à ce moment-là, c'est juste avant Noël. Et pourquoi ? Parce que on a des a priori, en fait. Parce qu'on prend nos idées pour la réalité. C'est ça, ce sont des idées qui sont la réalité. Donc on a, sans le savoir, déjà une position, si on ne le dit pas, même si on ne sait pas d'ailleurs, une position métaphysique. Donc, là, après Noël, on ira voir, c'est quoi une position métaphysique ? Ça veut dire quoi une position métaphysique sur la question ? Et sauf qu'il y a un grand métaphysicien, avec 92, un grand métaphysicien, oui, le métier, parce qu'un grand, tout de suite, on a l'impression qu'on pourrait citer. Non, on sera là pour discuter. Il y a un métaphysicien, comme moi, c'est Daniel Vinas, qui a fait de l'altérité le concept fondamental de sa métaphysique. Donc, allons voir. C'est pour ça qu'on l'a pris. Non, lui se distingue des autres métaphysiciens par ce concept-là. Notamment par rapport à Descartes, par exemple, un autre métaphysicien, on parlera. Voilà, c'est que lui n'en parle pas, moi j'en parle. Voilà, on verra pourquoi et comment. Et ensuite, quand on aura vu le discours métaphysicien, on aura été au bout de cette critique, on verra qu'il y a d'autres discours. Alors, c'est beaucoup d'anthropologie, d'ethnologie. Là, je vous renvoie. Alors, oui, par contre, pour avoir la métaphysique, pardon, c'est soi-même quand même de Paul Ricoeur qui est intéressant, et évidemment, Altérité et Transcendance, Emmanuel Lévinas. À mettre en rapport peut-être avec la culture de l'autre, de Fred Pochet, moi, puisqu'en fait, ce livre, ce petit livre d'ailleurs, que je vous conseille de lire si Lévinas pour vous, ça vous paraît, lisez plutôt celui-ci, puisqu'il peut résumer en fait de la thèse de Lévinas, qui met en discussion Lévinas, Ricoeur et Lévi-Strauss. Donc c'est une sorte de débat entre ces trois philosophes qui est quand même intéressant pour clarifier les choses. Ça va ? C'est l'avant-dernier, la culture de l'autre. Ensuite, on terminera sur l'anthropologie, l'ethnologie, on ira voir. Pas pour terminer, pas pour dire qu'ils ont raison, mais puisqu'ils existent aussi, ces discours-là. Et en plus, le discours de Lévi-Strauss, évidemment, qui paraît incontournable, puisque pour lui, Lévi-Strauss est à la psychosociologie et à l'ethnologie, ce que Lévinas est à la métaphysique. C'est parce qu'il introduit, alors lui appelle ça le concept de diversité, mais à travers le concept de diversité, on va voir qu'il y a une question de l'altérité, du problème de l'altérité, et comment fonctionne l'altérité dans notre rapport aux autres cultures, etc. C'est le bon mot, c'est la pensée psychologique de Lévi-Strauss. Et c'est intéressant parce que justement, il va se démarquer des autres discours psychosociologiques qui parlent d'autre chose que ça. Ça va ? Et on verra. C'est beaucoup. On vous animera cette histoire qui est un livre. Une conférence en fait, un compte rendu d'une conférence, une invitation suite à la fin de la guerre d'Algérie. Il a été invité pour se prononcer sur le problème du colonialisme. Donc c'est très intéressant pour nous, très actuel, des réfugiés, etc. Et donc ça me permet de faire. Alors le papa pour la petite histoire, qui en a peut-être connaissé, c'est un livre qui avait beaucoup de succès dans les années 70, donc on vous l'a dit, petit roman. C'est une reprise des lettres persanes, vous savez, un roi d'une culture qui n'est pas la nôtre, qui arrive à Paris, qui découvre Paris, et on regarde la France d'un regard qui n'est pas nôtre. Et ça peut être intéressant, sur la question de la vérité. Cela dit, à Noël, il est prévu, pour l'instant, on va voir. On vous passera un clip là-dessus, puisqu'il y a d'autres choses qui ont été faites, beaucoup plus, peut-être un peu plus. Moi, bon, c'est carrément des expériences qui ont été faites là-dessus. Bon, on terminera juste avant Noël un petit débat avec un petit film, comme on fait de temps en temps, et qui envoie en fait à cette histoire de Pantalaïque. Voilà, si vous voulez prendre un peu d'avance sur ce débat-là, qui sera la transition entre la fin et puis le reste, la métaphysique et l'ethnologie. Troisième et dernier niveau, j'arrête là. Alors évidemment, je n'ai pas dit ce que je veux dire, mais c'est pas grave, encore une fois, c'est pas grave. Est-ce que ça introduit quand même ? Vous avez compris le programme, la bibliographie, ça va ? Troisième et dernier niveau, mais là, je vous laisse à votre réflexion. Troisième et dernier niveau, le texte, mais là, c'est vraiment, on n'y est pour rien, c'est pour ça que j'insiste, on l'avait choisi fin avril, quand ce texte est dénumé. Il se trouve que le texte de Bergson est très actuel. Si vous suivez le problème des réfugiés qui sont en ce moment, vous verrez que les positions politiques, je m'excuse pour ceux qui on parlera le moins possible, c'est le premier, politiques aujourd'hui, les discours, si vous voulez, politiques par rapport à ça, renvoient souvent à ce problème-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met en place, quelles outils on met en place, quelles valeurs on va défendre pour justifier le fait que, oui, il faut la... Et vous avez encore le pape hier qui est intervenu, le discours religieux qui va intervenir, attention à ce qu'on fait, attention à ce qu'on dit. Je ne veux pas parler évidemment de la vie dans le monde, autre chose, mais ça pourrait être un bon exemple à développer. Pratiquement. Non, on va retrouver ce problème, hein. En ce sens-là, c'est très intéressant. Par la discussion qu'elle a voilà, donc voilà, je reste à votre attention, je sens que ce texte, mais c'est alors, c'est complètement indépendant de notre volonté, on est pour rien, c'est conscient pour tout, à moins qu'il s'est renseigné sur nous, et puis voilà, on ne peut pas savoir, on met des micros à la maison, on ne sait rien. Mais là, pour le coup, je vous invite à sur le discernement du texte pour lire un peu, je vous ai déjà marqué le journal autrement, quoi, écoutez ce que. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. On vous remercie. Excusez-nous.